question d'aujourd'hui. Avec Mario Barre.
Bienvenue à Question d'aujourd'hui, très heureux de vous accueillir pour cette émission qui vous est présentée par l'Office de catéchèse du Québec en collaboration avec Radio-VM et Radio-Galilée. C'est déjà la fin du carême, c'est déjà la dernière semaine pour les gens qui fréquentent la messe du dimanche. Bien sûr, vous avez vécu la cérémonie des rameaux et la lecture de la Passion. Je suis très heureux en passant d'avoir réalisé toute cette série d'émissions avec seulement des femmes qui sont venues à ce micro pour le carême. C'est notre carême au féminin. C'était la deuxième année et j'espère que ça ne sera pas la dernière. Et pour terminer ce carême, justement, je vais m'entretenir avec l'intervenante en chef d'un organisme qui s'appelle Face à Face, qui est situé à Montréal et qui est au service de la communauté depuis 1982. C'est un centre d'écoute et d'intervention, un organisme communautaire à but non lucratif dont la mission est de venir en aide aux personnes dans le besoin. En fait, organisme ONBL, comme on dit.
ONBL.
Vous entendez Akira Buena, qui est intervenante en chef. Bonjour.
Bonjour. Merci de m'avoir accueilli.
Merci beaucoup d'accepter l'invitation, Akira. Oui. C'est un grand plaisir. Mm-hmm. Je dois dire que Akira travaille dans le même building où je travaille avec aide à l'Église en détresse. Ouais. Autre organisme pour lequel je travaille. Ouais. Et donc, on se connaît un peu, on se croise exactement. Toujours un grand plaisir. Et j'ai dit à Akira, à un moment donné, je me suis dit, mais ce serait bien que tu viennes, étant donné que Face à Face, bon, d'abord fondé en 1982, c'est vraiment un organisme. Qu'est-ce que vous faites exactement, Akira?
Fait qu'on fait plusieurs choses. Fait qu'on veut, je veux dire, notre service prioritaire, c'est le service de courrier. Mm-hmm. Donc, on a un service pour le monde qui sont sans-abri ou dans situation de transition. Puis on offre une boîte postale pour eux.
OK.
Aussi, on a une ligne d'écoute active aussi pour le monde qui veut appeler s'ils sont dans des situations de détresse, s'ils veulent juste parler à propos de leur vie quotidienne aussi.
Donc, vous prenez le temps d'écouter les gens qui vivent des situations,
exact.
Soit qui sont dans la rue,
exact.
Soit qui ont de la misère avec leur logement,
ouais.
Soit que c'est des personnes qui vivent une extrême pauvreté également.
Exact, exact. Fait que on accueille tout le monde. Faut avoir 18 ans et plus, mais on accueille tout le monde à notre centre, oui.
Et c'est vraiment une, j'allais dire, c'est vraiment un grand défi aujourd'hui.
Ouais.
Parce que on le sait, il y a eu une augmentation.
Ouais.
Assez sensible,
ouais.
Hein, du nombre de personnes recensées. Hein? On parle de recensés, là.
Ouais.
On ne parle pas de ceux qui ne l'ont pas été.
Ouais.
De 3 000 à 10 000 personnes itinérantes au Québec, ça, c'est une évaluation générale.
Ouais.
Il y en a probablement plus.
Ouais.
Et est-ce que vous l'observez, ça, dans les services que vous donnez à tous les jours?
Ben oui, sûrement. Comme ça a vraiment déclenché après la pandémie, même un petit peu avant la pandémie.
Ah oui, d'accord.
Mais surtout, on a vraiment vu une hausse de notre clientèle. Je veux dire, en 2021, on avait à peu près 600 dossiers. Mm-hmm. Là, on est rendu à 1000. Fait que...
D'accord. Et vous avez le même... Vous devez travailler avec les mêmes paramètres,
exact.
Qu'avant la pandémie.
Exact. Fait qu'on a le même nombre de staff qui travaillent, le même nombre de personnel. Puis même, on travaille souvent avec moins de bénévoles aussi. On avait vraiment la misère à avoir des bénévoles au centre après la pandémie.
Mm-hmm. Parce que vous avez beaucoup de jeunes bénévoles. C'est
exact.
Ça qui est impressionnant,
exact,
aussi.
Exact. Fait qu'on va dire la majorité de nos bénévoles sont des étudiants en psychologie ou au travail social. Puis offrent leur temps pour nous aider.
Mm-hmm. Akira, qu'est-ce que tu observes sur le terrain de plus difficile, de plus tragique même peut-être, parce que je vois souvent des gens qui rentrent chez vous et parfois vraiment on se dit « Mon Dieu Seigneur, la personne a vraiment beaucoup de difficultés déjà par la façon de se tenir, par le visage qui a les traits tirés, par les vêtements qui sont très sales.
Ouais. »
Qu'est-ce qui présentement pour toi est vraiment le problème numéro un pour les personnes qui sont en situation d'itinérance?
C'est vraiment la crise du logement. Fait qu'il y a pas assez d'appartements, qu'ils construisent pas assez d'appartements au prix modique, au prix abordable. Fait que ça, c'est vraiment la première chose que je vois. C'est vraiment, vraiment triste. C'est effrayant quand je vois le monde qui sont 70, 80 ans, sont dans des situations d'itinérance pour la première fois de leur vie. Puis, sont vraiment en peur, puis ils ont pas souvent la capacité, puis la connaissance de vivre à l'extérieur, surtout durant l'hiver. Mm-hmm. Puis ils connaissent pas les ressources aussi. Fait que souvent, je vois beaucoup de monde qui sont dans des situations vraiment précaires. Puis c'est vraiment triste. J'ai vu vraiment beaucoup de monde qui est dans une situation, qui sont des demandeurs d'asile, admettons, des réfugiés, des parents monoparentales. Fait que ça a devenu vraiment, vraiment pire parce que c'est pas abordable actuellement à Montréal. On va dire, admettons, un 4,5 pour 800 piastres, ça n'existe plus.
Non.
Malheureusement.
Non, ça n'existe
plus. Puis, c'est vraiment triste. J'ai beaucoup de monde qui, ils n'ont pas de choix de soit, déménager avec du monde qu'ils connaissent, la famille, des amis, ou soit, on faut faire
des colocations.
Exact, des colocations. C'est pas toujours idéal pour tout le monde. Fait que,
Et ça peut être difficile, une colocation, surtout si tu as un enfant.
Exact,
surtout si tu es en situation aussi de santé mentale fragile.
Exact, Fait que c'est ça, qu'est-ce qu'on avait vu vraiment, c'est vraiment un taux élevé de monde. Puis même du monde vraiment sur l'aide sociale, qui gagne pas assez d'argent. Un choc d'aide sociale, c'est comme 800-900 $ par mois. Tu sais, avec la crise d'alimentation maintenant, tu peux pas vivre seulement avec 800 piastres par mois.
Et on le voit, Akira, les banques alimentaires ne fournissent plus. Les banques alimentaires, même parfois, en appellent au public en dernière minute en disant, on pensait pouvoir tenir jusqu'à la fin de l'année, puis finalement, on ne pourra pas, donc aidez-nous.
Ouais, non.
Qu'est-ce que ça fait vivre, j'allais dire, une personne comme toi, Akira, qui à tous les jours doit faire face à cette misère-là? Comment tu le gères également, effectivement?
Non, c'est vraiment difficile. C'est vraiment quelque chose à chaque jour. Souvent, je rencontre une nouvelle personne dans une situation très précaire puis urgent. Puis c'est difficile. Je veux dire, c'est vraiment difficile. Puis on n'a pas toujours les outils qu'on a besoin. Mais bref, heureusement, moi, j'ai une très belle équipe qui travaille avec moi. Puis on essaie de faire le mieux qu'on peut. C'est sûr qu'on peut pas faire des miracles. Puis on aimerait ça faire, accueillir tout le monde. Puis il y a des clients que j'aimerais ça. Ce matin, je pouvais construire une bâtisse demain, puis je peux les loger, je serais très contente, mais malheureusement, on fait le mieux qu'on peut avec les outils qu'on a. À Star, qu'est-ce qu'on fait assez souvent, c'est qu'on fait des demandes pour avoir des appartements subventionnés.
Mm-hmm.
Fait que, mais ça encore, il y a une liste d'attente. Ça peut être quelques mois jusqu'à quelques années, plusieurs mois, plusieurs années. Fait que c'est...
Et les gens arrivent chez vous et souvent, vous êtes là... l'endroit où ils disent c'est urgent.
Oui,
c'est aujourd'hui que ça doit se passer et ça ne peut pas se passer.
Ça peut pas se passer, malheureusement. C'est vrai que le gouvernement municipal, fédéral, provincial disent qu'il va faire beaucoup de choses pour améliorer la situation. Mais c'est pas assez vite. C'est pas assez vite pour la demande. Il y a une demande actuellement énorme pour avoir du logement. Puis je pense, pour moi, tu sais, c'est un droit d'avoir du logement. C'est un droit essentiel. Fait que quand je vois le monde qui rentre, qui sont vraiment déprimés, puis ont perdu de l'espoir, ça nous touche vraiment beaucoup. Puis ouais. parce que tu veux pas voir quelqu'un dans une situation de crise. Puis tu veux vraiment que on essaie de les rassurer que ça va bien aller, mais des fois on sait pas. On sait pas si on peut les loger le mois prochain. Dans certaines situations, on fait le mieux qu'on peut. Puis des fois on a eu des belles histoires, des
ouais, ouais.
Mais
présentement, ouais. la majorité des histoires, c'est on ne peut à peu près rien faire pour
exact,
vous.
Exact. On fait le mieux qu'on peut. On travaille avec beaucoup d'autres organismes aussi. Mm-hmm. Mettons Vie la Vie, la FOM, pour les appartements subventionnés. Mais encore, eux-mêmes sont vraiment débordés. Il y a ouais. vraiment beaucoup de personnes à faire des entrevues avec. Fait que,
Les gens qui attendent pour mm-hmm. un loyer abordable,
ouais.
soit dans un... à travers une office ouais. municipale d'habitation, c'est énorme.
Exact. Fait que actuellement, je pense que
je pense à Montréal, quelque c'est chose ça. Comme ça. Je vais vérifier tantôt, mais oui.
Ouais, mais actuellement, je pense que la liste d'attente c'est entre 5 et 7 ans. Fait que tu peux imaginer pour quelqu'un qui a besoin d'un appartement pour mettons le 1er juillet.
Ça va pas.
Non.
on va faire une pause,
oui?
Akira,
parfait.
Et on continue tout de suite après.
OK.
Vous êtes toujours à l'émission Questions d'aujourd'hui. Je me trouve en compagnie de Akira Buena, qui est intervenante en chef mm-hmm. chez Face à Face, qui est un organisme sans but lucratif.
OBNN.
Voilà, exactement. Akira, d'ailleurs, on va faire une parenthèse parce mm-hmm. que, Akira, vous êtes originaire de Manhattan.
Oui. Oui.
Et donc, vous êtes arrivée à 4 ans.
À 4 ans, oui. Ma mère est québécoise.
Oui.
Anglophone québécoise, puis mon père est américain. Oui.
Et donc, et Akira me confiait qu'elle aime bien Montréal, étant donné
ouais.
qu'il y a une vibration qui est un peu semblable à celle de Montréal,
oui,
mais c'est quand
oui,
même un peu plus
similaire.
Tranquille.
Ben oui, plein de culture, plein de vie.
Oui.
Ouais.
Et c'est rare qu'on peut dire qu'on est né à Manhattan, alors
ouais.
soyez fiers, Akira. Akira, on parlait, donc, je suis allé chercher le chiffre, en fait.
Mm-hmm.
Bon, écoutez, j'ai pas fait de recherche exhaustive, mais ce serait 24 000 ménages mm-hmm. qui sont sur la liste d'admissibilité, donc, mm-hmm. de l'Office municipal d'habitation de Montréal.
Mm-hmm.
Ça, c'est à Montréal seulement.
Ouais.
Et, mm-hmm. Si vous voulez faire l'exercice, hein, pour les gens qui nous écoutent à la maison, vous allez mm-hmm. chercher Office municipal d'habitation, je sais pas, moi, de Sherbrooke, de Québec,
ouais.
de votre région. Vous
mm-hmm.
allez voir, les chiffres devraient être publics et on
mm-hmm.
s'aperçoit que c'est immense.
Mm-hmm.
24 000 personnes qui attendent.
Mm-hmm, c'est beaucoup.
C'est beaucoup. Akira, on s'en parle parfois à bâton rompu, dans les escaliers,
ouais, ouais.
quand on se croise. Et ce qui revient souvent dans ce que tu me dis,
ouais.
c'est vraiment le fait que justement les gens n'aient pas de logement.
Mm-hmm.
Pour toi, c'est quelque chose d'inacceptable.
Non, c'est pas acceptable parce que moi, je crois que c'est un droit d'avoir un logement. Tout le monde a un droit d'être logé.
Mm-hmm.
C'est comme tout le monde a le droit de boire de l'eau, de se nourrir. C'est très important d'avoir une place pour aller, pour dormir, pour se sentir sécure.
Mm-hmm.
Puis malheureusement, pour beaucoup de nos clients, c'est pas le cas. Ils ont pas accès au logement.
Ben, le logement en plus. Mm-hmm. On parle de logement abordable, donc on parle
mm-hmm.
d'un logement
oui.
où la personne n'aura pas à payer plus de 33 ou 30
oui, ou même
de son revenu.
25 % qui est plus idéal même.
OK.
Ouais. Mais c'est ça, à cette heure, je vois du monde qui veut risquer, il veut mettre 80 % de leur revenu dans leur logement. Puis, tu sais, comme il reste vraiment pas beaucoup à la fin de la journée. Puis
ce sont des personnes qui n'ont pas le choix de faire
ils ont
ça.
Pas de choix. Ils n'ont pas de choix de dépenser 80 % de leurs revenus. Fait que, comme je disais avant, si tu es sur l'aide sociale, tu gagnes 900 $ par mois, tu dépenses 80 % de ton revenu, tu restes peut-être 120 piastres, 200 piastres pour
le restant du
mois. Le restant. Et alors, des vêtements, la nourriture.
Ouais. Et on a beau dire, bon, il y a plusieurs organismes qui peuvent offrir la nourriture gratuite.
Oui.
Il y a plusieurs organismes, ça, c'est vrai.
Ouais.
Mais reste que on ne sort jamais, finalement. On entre dans un cycle qui ressemble à celui de la misère, finalement.
Oui, exact. Ouais. Puis c'est pas idéal. C'est pas acceptable. C'est ça. C'est pas acceptable que le monde sont pognés dans des situations où qu'il faut payer, admettons, un logement à 900 $ puis il gagne 1000 $ admettons.
Ouais.
C'est le manque sur les patients de vieillesse aussi, par exemple, là, qui gagnent à peu près 1200 à 1600 $ par mois aussi. C'est même, j'ai beaucoup de monde qui ne peut pas même aller dans des RPA parce que c'est trop cher.
Oui, les résidences privées autonomes sont pas nécessairement accessibles à tout le monde.
Mm-hmm. Exact, oui.
Et quelle est l'importance, Akira, d'avoir, justement, pour la santé mentale, d'avoir un logement? Je pense que vous l'observez aussi chez les personnes qui viennent chez vous.
Oui, ben c'est très important pour la santé mentale. J'ai des clients qui rentrent, ça fait plusieurs mois qu'ils restent dans les refuges à Montréal, puis ça dégénère vraiment vite leur santé mentale quand ils restent dans des places où ils ne sont pas sécures, puis ils ne sont pas... des fois, il y a tellement de choses qui se passent dans les refuges. Des fois, même la violence qui peut arriver à des refuges. Fait que, tu sais, il y a beaucoup de traumatisme qui vient avec d'être dans une situation d'itinérance à chaque jour. Il y a beaucoup de mes clients qui ont vécu vraiment beaucoup de choses qui ça reste avec eux durant toute leur vie.
Fait que, des choses qu'ils n'auraient peut-être pas pensé vivre avant.
Exact. Ben, ils sont plus à risque de consommer l'alcool, la drogue. Ils sont plus à risque pour les femmes d'être dans des situations où ils sont agressés sexuellement aussi. Fait que, il y a plein de facteurs qui peuvent causer une personne dans une situation d'itinérance d'être dans une situation de crise de santé mentale.
Ouais. Akira, si tu étais intervenante en chef du gouvernement, qu'est-ce que tu ferais?
Je pense que premièrement, je ferais des lois et des règlements pour protéger le monde qui sont à faible revenu.
D'accord.
Il n'y a pas assez de lois qui nous protègent au niveau de logement. Mm-hmm. Il n'y a pas assez de règlements. Puis quand tu vois, admettons, c'est des politiciens qui gèrent nos vies essentiellement, qui sont vraiment éloignés de situations.
Qui connaissent mal les situations
et connaissent pas la réalité qui se passe à chaque jour.
Ouais.
Puis je pense que pour tout le monde, même les personnes sur les salaires ordinaires, admettons, qui gagnent entre 40 et 60 000 $ par mois, ils ont la misère.
Par année.
C'est difficile pour eux aussi, c'est difficile pour tout le monde à cette heure. Fait que tu peux imaginer quelqu'un sur leur pension de vieillesse ou, mettons, sur l'aide sociale, c'est pas beaucoup.
C'est vraiment pas beaucoup.
Puis c'est quasiment rendu que c'est pas possible de vivre dans un appartement.
De vivre seul et d'avoir...
Seul.
Parce que si on est célibataire, bien sûr, l'idéal n'est pas de vivre en colocation, étant donné... En fait, on peut vivre en colocation, mais il faut des règles strictes.
Exact.
En tant que colocataire, la cuisine, c'est souvent le contentieux principal.
Exact,
quelqu'un qui
et
laisse
la
vaisselle. Oui, la salle de bain également. Alors, plus de réglementation si tu étais intervenante
exact.
En chef.
Oui, oui.
Et est-ce que, donc, vraiment, tu trouves que, présentement, nos paliers de gouvernement, quels qu'ils soient, ne bougent pas assez vite, finalement, sur la question du logement?
Non, puis qui voyait avec le gouvernement Legault récemment, même avec les sessions de bail, puis les règlements, puis les lois qu'ils font actuellement, ça cause beaucoup de problèmes pour beaucoup de monde. Fait que,
parce que ça. Les gens ne sont pas nécessairement toujours
à
l'aise de répliquer à une augmentation.
Oui, fait que
c'est souvent le problème qui arrive.
Ben, souvent, j'ai beaucoup d'appels du monde qui, mettons, sont à risque d'être évincés, puis ils connaissent pas leurs droits. C'est ça qui est vraiment
inquiétant. Et il y a la peur qui vient.
Puis la peur, l'intimidation.
Il y a de l'intimidation?
Oui, assez souvent.
De la part de propriétaires ou de gestionnaires d'immeubles?
Oui, ça arrive assez quand même souvent. La manipulation aussi. Fait que le monde, même des fois, le monde n'a pas assez de temps. Il travaille 40 heures par semaine. Il n'y a pas le temps pour aller au régie du logement faire une plainte.
Donc, ils décident de laisser tomber.
Ouais.
Ils acceptent ou elles acceptent l'augmentation.
Ouais.
Et là, ils vont couper ailleurs dans d'autres domaines, souvent la nourriture ou bien encore.
Exact. Puis souvent, qu'est-ce que je vois, c'est le monde, ils laissent tomber, puis ils déménagent, puis ils se trouvent dans des situations peut-être encore plus pires. Fait que, c'est triste.
Akira, on a beaucoup parlé des autres. Moi, j'aimerais savoir, en émission, il nous reste à peu près 5 minutes déjà, j'aimerais savoir quelle est ta source pour lutter comme ça avec les gens, parce qu'il faut quand même avoir en soi quelque chose qui nous... je veux dire, travailler pour aider les autres, ça demande souvent... on doit souvent se ressourcer, j'allais dire. Est-ce qu'il y a des sources de ressourcement, justement? Est-ce qu'il y a des endroits où tu réussis à te ressourcer?
Pour nous, les intervenants, maintenant, le monde...
Mais pour toi,
Pour moi? Mes chats. J'ai deux chats qui m'aident souvent quand j'arrive chez nous.
Ouais.
Je suis vraiment stressée puis fatiguée.
Mais ça fait du bien de les avoir. En tout cas, au moins, ils sont là.
Non, mais j'ai beaucoup de soutien de mon équipe.
D'accord.
Puis je travaille en solidarité avec d'autres organismes aussi. Souvent, je travaille avec, mettons, juste à côté de la CLSC Métro, en Achille Doris, juste à côté de nous aussi, Résilience, proche de Cabot Square aussi. Fait que je trouve que ça aide vraiment beaucoup de travailler en solidarité. Comme j'ai mentionné aussi, Ville la vie, c'est une belle équipe ici. Fait que,
Et ce sont des valeurs, la solidarité, que tu as développées très tôt dans ta vie?
Oui, c'est important d'avoir ça. Ouais, c'est toujours important de travailler avec d'autres mondes. Puis c'est aussi l'information qui
est importante.
Oui, l'échange de l'information, c'est très précieux.
Pourquoi c'est important, c'est changer l'information? Pourquoi c'est important?
Ben, admettons, tu sais, avec mes collègues que j'ai, je peux, admettons, si il y a un genre de programme que je connais pas d'hébergement, un programme de logement que je connais pas, puis il y a d'autres monde qui connaissent, parce que souvent, des fois, c'est niche. Il y a vraiment beaucoup de programmes qui sont pas bien connus.
Oui, voilà.
Fait que, tu sais, mettons, je veux dire, l'autre jour, chez Doris, il y a un excellent programme pour les femmes. Puis, j'étais pas au courant du programme. C'est un programme quand même assez nouveau, un nouveau bâtisse qu'on construit proche du parc Lafontaine.
Ouais.
Puis, c'est ça, j'étais pas au courant. Puis, c'est ma collègue qui m'avait dit que je pourrais envoyer une demande pour une de mes clientes. Puis,
donc, l'importance de, finalement, se parler.
Exact, de parler
entre l'échange. Organismes et entre personnes qui travaillons.
Oui, puis travailler ensemble. Souvent, pour le monde qui sont sans-abri, ils n'ont pas accès à leur des pièces d'entier, mettons. Fait qu'on travaille assez souvent avec le CLSC Métro juste à côté pour les 4MQ pour le monde, les cartes d'assurance maladie.
Oui.
Fait que nous, on remplit ces formulaires, puis on les envoie là-bas, puis ils peuvent avoir leurs photos...
prise
gratuitement, puis
donc voilà,
c'est ça.
Akira, ça a été un grand plaisir de t'accueillir ici à l'émission.
Ben merci Mario, j'apprécie.
Et je pense que c'est important de rappeler que des organismes comme Face à Face, il y en a plusieurs.
Oui.
S'il y a des gens qui nous écoutent également, est-ce qu'il y a un numéro de téléphone où ils peuvent téléphoner, peut-être qui ont besoin justement ou qui connaissent des gens qui auraient un besoin?
Oui. Alors, numéro de téléphone, c'est le 514-934-4546. Si vous avez besoin de faire une recherche d'appartement, vous pouvez aller sur la ligne 1. Sinon, pour votre courrier, c'est la ligne 2.
Merci beaucoup, Akira.
Ça fait plaisir.
Merci.
Merci.
Alors, joyeuse Pâques, Akira également.
Joyeuse Pâques à toi aussi.
Akira Bouyénard, je rappelle, est intervenante en chef chez Face à Face, un organisme qui est situé sur le boulevard Maisonneuve-Ouest à Montréal et qui soutient donc les personnes qui sont en situation d'itinérance, les écoute. Personnes vulnérables également. On n'est pas nécessairement itinérant dans la rue, mais avoir une chambre où il y a des coquerelles, où il y a des tiques, où il y a n'importe quelle petite bête qui viennent vous embêter, ça peut devenir vraiment quelque chose d'extrêmement difficile à vivre pour des personnes. Ouais. Et ça, vraiment, il faut le rappeler, les personnes vulnérables ont vraiment besoin de plus en plus de que l'on qu'on les soutienne. Alors, voilà, l'invitation est lancée. En tout cas, allez voir le site web faceafacemontréal.org. C'est tout simple, /FR. Et vous découvrirez donc un organisme que moi, en tout cas, j'ai appris à apprécier par le travail qu'ils font et bien sûr par les gens qu'ils accueillent, qui sont dans tous les états, parfois dans des états difficiles, parfois on voit des sourires. Et bon, bref, voilà. Je vous rappelle simplement que cette émission vous est présentée par l'Office de catéchèse du Québec en collaboration avec Radio-VM et Radio-Galilée. L'Office reçoit le gracieux soutien de la Fondation Lucien Labelle pour la réalisation d'émissions. Merci beaucoup à Daniel Fortin et Yannick Caron qui sont les deux principaux techniciens de cette émission. Et je leur souhaite en particulier, tiens, une joyeuse Pâques. J'espère qu'ils ne mangeront pas trop d'œufs en chocolat. Dans le cas de Daniel et Yannick, d'ailleurs, oui, c'est bon. Moi, je vais en manger, en tout cas, ça c'est sûr. Et je vous souhaite à tous et à toutes un excellent dimanche de Pâques, un très beau dimanche de Pâques. Profitez-en justement pour vous renouveler, que vous soyez croyant, non-croyant, agnostique, croyant dans d'autres spiritualités. Pâques demeure une des plus belles fêtes de l'année où l'on, justement, bien sûr, les chrétiens soulignent cette croyance qu'ils ont, cette foi qu'ils ont à la résurrection. Et donc, moi, en tout cas, je suis très heureux de vous partager mes souhaits et les souhaits de toute l'équipe de Questions d'aujourd'hui. On se retrouve bien la semaine prochaine pour une autre émission. D'ici là, je vous dis à bientôt.